Bonjour, Marco, compte à rebours. Compte à rebours, l'émission numéro 95, voyez-vous, ou 96 peut-être. Bon, enfin, on approche la centième émission, et comme il y en a eu beaucoup qui n'ont pas été numérotés, au moins 200 avant qu'on commence à les numéroter, eh bien ça fait une paye que cette émission a commencé et qu'elle continue. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, hein. Ouais, simplement parce qu'il y a des histoires. En fait, presque toutes les semaines, je veux arrêter, mais des livres me tombent sous la main, on me raconte des histoires, je me dis, bon, ben alors je vais devoir retourner à la radio pour encore faire vivre ces histoires entendues ou lues ici ou là. Aujourd'hui, bien, vous aurez vos contes, hein, le conte est bon, j'aime bien, hein, l'histoire de la maladie d'Ali, les histoires moyen-orientales plutôt, hein. Donc la maladie d'Ali, et puis une toute petite histoire, mais très belle, venue d'Afghanistan. Bref, l'aveugle et l'artiste, ou le pouvoir des mots. Et puis, pour commencer, eh bien toujours, Serge Paye. Parce que là, c'est pareil, régulièrement, je tombe sur des poésies à lui, puisque j'ai acheté un livre, hein, donc je tombe dessus, et puis il y en a qui, je me dis, il faut que je les dise, comme celle-là. La poésie est un mode d'emploi des miracles. Avec un titre pareil, en plus. Donc voilà, vous allez l'écouter, et peut-être il y aura sans doute le groupe Jour, qui accompagne traditionnellement Serge Paye dans notre émission, uniquement, hein. Et puis après, les contes avec des musiques pas mal du tout aussi. Enfin bref, une émission exceptionnelle. Savourons. Alors, Serge Paye, extrait du manuel philosophique de guerre sociale, dialectique de la tour de Pise, etc., etc. C'est « La poésie est un mode d'emploi des miracles ». Les oiseaux laissent des empreintes vides dans le ciel. Un homme les décalque quand il veut voler. Mais le ciel se referme après son passage et il oublie qu'il a volé. La peur se chausse de jambes et de bras et d'un poème original. Les rats font des anagrammes en arrivant tard sur les cadavres de l'art. Piège à rat, piège à art. La cacophonie tord les définitions pour qu'elle puisse prononcer ses détournements pâles. Les ratistes parlent comme des artistes. Faire la différence entre eux est une affaire de chasseurs. Les vitrines de l'art contemporain exposent des cages à rats pour des rats qui marchent sur les trottoirs. La poésie est un mode d'emploi des miracles. Seule la peur a peur. Seul le courage a du courage. Seul l'honneur a de l'honneur. Et la fuite fuit pour arriver toujours quelque part où s'enfuir, elle ne pourrait pas arriver. Une phrase pourrait ne pas avoir de sens. La peur aurait le courage de l'honneur de fuir. Ou l'honneur aurait le courage de la peur de fuir. Ou fuir serait le courage de l'honneur de la peur. Un poème peut tout faire avec une phrase ou avec une vie. Déserter reste la célébration du désert. Un cœur parfait bat dans un corbeau. La poésie ne peut ajourner ses libérations.
Elle attend, elle est là. Elle dit juste, fais juste à woman if you're all ambiola. Elle attend, elle bouge pas, elle pleure pas. Elle dit juste my face quoi Britannia si admire mon les vents. Elle attend, elle rit pas, elle crie pas. Elle dit juste why cross dit lui va mi sol cross tu pas dormir. Elle attend, amo le vol. Lui va mi sorgrus tu pagor mi ashu.
Donc c'était le groupe Jour, et maintenant les contes. Un petit conte pour commencer, un autre un peu plus long, mais ils sont pas très longs non plus. Hein. De toute façon, vu que l'émission n'est pas longue, on peut pas avoir des contes interminables. Ou alors il faudrait faire des épisodes, mais c'est pas facile. Hein. On n'est pas sûr d'avoir le deuxième, on loupe le quatrième, enfin bref, après il manque des choses. Donc là, des petites histoires. Une petite histoire pour commencer, d'après Assadullah Raïd et Laila Raïd, dans un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « Demain vient le printemps » et autres histoires traditionnelles d'Afghanistan, édition L'Harmattan. Et une histoire qui s'intitule, très courte, hein, « L'aveugle et l'artiste ou le pouvoir des mots ». Un vieux mendiant traînait ses guenilles le long de sa longue route sans but. Une forêt de cheveux blancs enchevêtrés envahissait son visage ravagé par le temps. Ses yeux étaient morts à jamais. Il agitait désespérément sa sébile de fer devant les passants, insensibles, égrenant d'une voix brisée et tremblotante les douloureuses péripéties que lui avait réservées le sort.
« Donnez, donnez s'il vous plaît !» À un pauvre, un vieil aveugle, qui n'a plus de toit ni famille, qui doit sans cesse marcher, marcher avec la lèpre qui le ronge. Une pièce seulement pour manger aujourd'hui.
La muraille égoïste qu'oppose chaque individu, omnubilé par ses peines et ses joies quotidiennes, abandonné, sans méchanceté franche et consciente, mais avec une indifférence démesurée, le mendiant aveugle à l'étau mortel de la faim. Et chaque jour nouveau accueillait impassible le soliloque patient de l'aveugle et la violente passivité des bien nourris. La Providence, cependant, mena les pas d'un poète vers l'amas de chiffon qui était devenu le mendiant délabré et mourant de faim. « Ne dis plus rien, mendiant, » dit doucement le poète. « Prends simplement ce petit morceau de papier et laisse-le à la vue des passants. » L'artiste inscrivit quelques mots sur la feuille et partit. L'aveugle attendit, silencieux. Bientôt, des hommes et des femmes s'attardèrent en lisant le précieux message. Ils sourirent, et leur départ s'accompagna de grelots métalliques. Le mendiant, surpris et heureux, remercia le ciel et put enfin se procurer le pain et l'eau qu'il avait tant tourmenté. Sincèrement intrigué, il étonna un des généreux passants en lui demandant « Que lisez-vous sur cette feuille ?» Depuis que je présente ces quelques mots, ils sont tous devenus subitement bons. L'homme sourit et déclara « Sur cette feuille, il y a écrit « Demain vient le printemps et je ne le verrai pas. » D'après la maladie d'Ali, conte autour du monde de Maggie Pearson. Dans la famille d'Ali, on était voleurs de père en fils. Certains sont charpentiers de père en fils, pêcheurs de père en fils, tailleurs de pierre en fils. Dans la famille d'Ali, on était voleurs de père en fils. Mais Ali, le fils, n'était pas comme le père, ni le grand-père d'ailleurs, ni l'arrière-grand-père. Non pas qu'il fût mauvais voleur. Il avait bien appris les techniques et ruses de son père, ruses et techniques éprouvées qu'il tenait de plusieurs générations de voleurs. Mais Ali avait un fond honnête. Il n'aimait pas voler. Pire que cela, il avait des scrupules à voler. Il se sentait coupable chaque fois qu'il pratiquait son art. Il avait l'intime conviction que tous ses forfaits, que pour tous ses forfaits, il recevrait un jour un terrible châtiment. Or, il en va du métier de voleur comme pour tous les autres métiers. Lorsqu'il n'est pas fait avec plaisir, il n'est pas bien fait. Mais dans la famille d'Ali, on était voleur de père en fils. Aussi, à la mort de son père, Ali reprit-il l'affaire familiale. Celle-ci ne marchait d'ailleurs pas très bien. Les riches se barricadaient derrière des barreaux et des grilles, et ce qu'ils laissaient dehors n'avait pas grande valeur. L'été, toutefois, quand les portes et fenêtres étaient grandes ouvertes pour laisser entrer la fraîcheur de la nuit, Ali avait plus de chance. Il se trouvait toujours une miche de pain ou quelques pièces de monnaie apportées de ses mains indiscrètes. Une nuit, justement. Alors qu'Ali étendait le bras par une fenêtre, dans l'espoir de dérober quelque objet de valeur, il entendit une vieille femme se lamenter.
« Pourquoi une vieille femme comme moi doit-elle tant souffrir? Ce terrible gloup-gloup me fera mourir. Gloup-gloup, terrible gloup-gloup, je ne te survivrai pas une nuit de plus. »
Le sang d'Ali se glaça dans ses veines. Gloup-gloup, que pouvait donc bien être cette terrible maladie? Et surtout, comment s'attrapait-elle? Peut-être même seulement en respirant le même air, pensa Ali effrayé. Et il sentit déjà une sueur froide couler le long de son dos. Je ne suis resté ici que trop longtemps. Ali rentra à toutes jambes à la maison. Mais bientôt, ses jambes refusèrent de le porter. Et dans sa précipitation, il butait sur chaque caillou. « Tu rentres bien de bonne heure, » s'étonna sa femme. « Qu'est-ce que tu nous ramènes de beau ?»«
Gloup, gloup, voilà ce que je ramène, le terrible gloup, gloup. Femme, va chercher le docteur, je vais mourir. »
Inquiète, sa femme courut chercher le docteur.
« Ali a attrapé le gloup, gloup. Est-ce grave, docteur ?»
La brave femme était persuadée que le docteur avait un remède contre toutes les maladies et le docteur se garda bien de lui dire qu'il n'avait jamais entendu parler de ce terrible gloup-gloup. L'air soucieux, il regardait Ali, tassé au fond de son lit. « On dirait que c'est sérieux, » pensa Ali.
« Je vais mourir. »«
Voyons, voyons, » dit le docteur, que cette nouvelle maladie intriguait. « Où as-tu bien pu attraper ce gloup-gloup ? »
« Dans la maison d'une vieille femme, » répondit Ali. « Je passais par hasard et sa fenêtre était ouverte. Je suis voleur, voyez-vous, et je me suis dit que l'imprudente avait peut-être laissé traîner quelque objet de valeur. C'est à ce moment-là que j'ai sûrement attrapé sa terrible maladie et ce n'est que le juste châtiment pour tous mes crimes. Ayez pitié de moi, je vous en prie. » fit le docteur.
Comme tous ceux qui ont quelque bien, il n'aimait guère les voleurs.
Ne lui avait-on pas lui-même volé une magnifique cafetière encore pleine et une assiette de loukoum pas plus tard que la semaine précédente?
Néanmoins, par conscience professionnelle, pour en apprendre plus sur cette nouvelle maladie, il se rendit chez la vieille femme. Que faire? Hésitait-il devant la fenêtre ouverte. « Dois-je rentrer? Mais que se passera-t-il si j'attrape moi-même ce terrible gloup-gloup? Je pourrais même mourir. »«
Ouh !»
gémit alors la vieille femme à l'intérieur de la maison.
« Qui pourra un jour me délivrer de cette souffrance? Je ne supporterai pas ce terrible gloup-gloup une minute de plus. »
Elle aperçut, à ce moment-là, la silhouette du docteur à la fenêtre. « Qui est là ?» s'exclama-t-elle en se redressant d'un bond sur le lit. « Vous n'avez pas honte de regarder comme ça la nuit chez une vieille femme ? Vous auriez pu me faire mourir de peur. » « Elle n'a pas l'air trop malade, » pensa le docteur rassuré. « Je suis venu pour ce terrible gloup-gloup, » dit-il. Et il entra dans sa maison. Plus tard, le docteur revint chez Ali. Derrière son air grave, on aurait pu deviner un imperceptible sourire. Mais Ali était trop mal en point pour voir cela. « Je peux te guérir de ce terrible gloup-gloup, » dit-il sentencieusement à Ali. « Mais ce ne sera pas facile. »«
Pauvre de moi !» gémit Ali au fond de son lit. « Pauvre de moi !»«
Mais si tu dois pour toujours rester un voleur, » continua le docteur, « je ferais peut-être mieux de te laisser mourir. »«
Mais le vol est mon gagne-pain !» se lamenta Ali. « Je ne sais rien faire d'autre !»«
Comme tu veux, comme tu veux !» « Tu aurais peut-être mieux à faire que de mourir du terrible cloup-cloup. »«
Je ne volerai plus, docteur. Je vous le promets, je ne volerai plus. »
Le docteur avait préparé deux remèdes souverains. Des pilules de panicum panis et une fiole d'aqua lactis. Autrement dit, des boulettes de mie de pain et un peu d'eau teintée de lait. Ali avala le tout fébrilement.
« C'est un miracle, docteur !» s'écria Ali en se levant d'un bond. « Je me sens déjà beaucoup mieux !»«
Très bien, » dit le docteur. « Mais le vrai miracle serait que tu arrêtes de voler. Voilà ce que tu vas faire. Tu es débrouillard, tu connais les portes, les fenêtres, les serrures, les meubles, les maisons. Tu peux faire artisan dépanneur. »«
Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je veux bien essayer. »
Et on vit bientôt Ali réparant ici, construisant là. Et son nouveau métier lui plaisait beaucoup. Il travaillait enfin à la lumière du jour sans se cacher et il rencontrait beaucoup de gens qui prenaient un grand plaisir à parler avec lui. En un rien de temps, Ali se fit beaucoup d'amis. On dit que son premier travail, c'est le docteur qui le lui avait trouvé. Dans la maison d'une certaine vieille femme, Ali eut à réparer un robinet qui fuyait. Tout le jour, toute la nuit, il fuyait en faisant un terrible gloup, 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 gloup. Déjà fini ? Eh oui, j'avais sous le coude, mais ça fait déjà plusieurs semaines que je l'ai, un très bon Nasreddin. Ben, je le garde sous le coude, comme ça je me sens mieux, ça me fait des accoudoirs. Je vous dis à la semaine prochaine, encore des contes, toujours contes à rebours. C'était Marco, ciao.
Ah,
Ah.